L'estime vaut mieux que la célébrité et la considération vaut mieux que la renommée.
Observateur du temps qui passe, il est aujourd'hui avec nous dans cette mi-temps de Saga Croco.
La mi-temps de Saga Croco, le podcast 100% Nîmes Olympique.
Bonjour, je suis Pierre Mosca, très heureux d'être au micro de Saga Croco.
Pierre, on est aujourd'hui ici au Hall de Nîmes, au cœur de Nîmes, pour parler d'une carrière de joueur, une carrière d'entraîneur, une carrière de directeur sportif, mais c'est avant tout la carrière d'un gardois, un gardois de Pompignan.
Bonjour d'abord à tout le monde, hein. Très heureux d'être invité à Saga Croco, Pompignan, où je suis arrivé lorsque j'avais 3 ans. Et pompignanais de cœur, bien sûr, et gardois d'affection. Je revendique tous ces statuts-là. Et je peux dire que ça a même contribué, vu l'esprit qui s'est dégagé dans cette famille gardoise, ça a contribué probablement un tout petit peu à ma réussite.
Le foot, ça a commencé à Pompignan, dans la cour de l'école, sur la place du village, il y a quelques années maintenant.
Même pas, puisqu'on jouait pas trop à l'école, c'est sur des cours bétonnés avec du bitume. Mais je commençais à échanger quelques balles avec les seniors du village, dans le stade qui d'ailleurs porte mon nom maintenant, suprême honneur que m'a fait Damien Larry, qui était maire à ce moment-là. Et le football a surtout commencé au collège du Vigan. Alors j'ai attaqué ma sixième jusqu'à la seconde, et on disputait les championnats scolaires, c'est-à-dire 5 matchs par an. Il n'y avait pas de quoi se mettre en évidence. Néanmoins, j'ai été sollicité par le Gallia Club du Lunel, par l'intermédiaire d'un ami nîmois encore, Bernard Daguzon, qui m'a demandé de venir jouer pour renforcer, entre guillemets, l'équipe du Gallia Club du Lunel, Junior, une compétition qui n'existe plus, mais une compétition très attrayante. Et voilà, je me suis fait remarquer pendant 3 ans au Gallia Club du Lunel, et Nîmes et Montpellier m'ont sollicité. J'avais donné ma préférence à Nîmes Olympique, bien sûr.
Alors là, il y a une anecdote, Pierre, parce que vous habitez à Nîmes, vous êtes un gardois de cœur. Il y a une histoire quand même, parce que vous auriez dû porter immédiatement le maillot du Nîmes Olympique du Stade Jean-Bouin.
Ah, vous êtes en train de remuer le couteau dans la plaie là, parce que effectivement c'était mes favoris, l'époque des Rosac, Bandera, Venturi, Salabert, Kesbis, Kiba, Raïs, Barlaguer, Schwager. Je peux vous donner la formation de l'équipe. Et j'avais effectué un stage de recrutement en levée de rideau de match mémorable, amical, qui n'avait d'amical que le nom, puisque ça terminait en bagarre Nîmes-América de Rio, beaucoup s'en rappellent. Et on avait été retenu 3 joueurs, Piero de Lost, le Vergésois, André Kabil et moi-même. Et lorsqu'il s'est agi d'aller signer le papillon de licence dans la rue Enclorée, chez le président Chiarini, M. Bosquier n'a pas trouvé de papillon. Il m'a dit « il faudra revenir demain ». Sauf que à 7h du matin, le lendemain, à Pompignan, il y a un dirigeant de Montpellier qui s'est présenté et qui a promis monts et merveilles, qui ont été tenues d'ailleurs, des promesses qui ont été tenues à ma maman, en disant que ma scolarité, mon habitation... Et donc ma mère m'a imposé d'aller à Montpellier. J'ai dit « non maman, j'ai signé, je dois signer à Nîmes, j'ai donné ma parole à Nîmes. » »« Non, non, tu files à Montpellier. » Et voilà. Et ça a été peut-être ma chance, parce qu'en deuxième division, j'avais plus la chance de jouer rapidement qui aurait pu être à Nîmes avec l'effectif que j'ai décrit tout à l'heure.
Nous sommes dans notre brasserie préférée ici au cœur de Nîmes, Pierre Mosca. On va aller du côté du Rocher à Monaco, parce que là vous avez une carrière de joueur entre 67 et 76. Des joueurs de talent, vous avez côtoyé une équipe formidable. La finale de la Coupe de France pour Monaco perdue face à Saint-Etienne, 2-1. En face de vous, il y a Beretta, Piazza, Janvian, Lopez, Larquet. Et c'est une finale qui aurait dû être positive pour l'AS Monaco.
Oui, par le déroulement de la rencontre et avec la fatigue accumulée de Saint-Etienne, qui avait été champion de France, qui gagnait la Coupe de France, puisqu'ils étaient déjà en finale, ils nous ont battus. La Coupe d'Europe, surtout, qui est dévoreuse d'énergie. D'après même des joueurs, les joueurs stéphanois, ils étaient fatigués en fin de saison. Ce match, il était entre autres, ce final. Et j'ai encore une photo de France ce soir, où Delionis, notre centre-avant, est ceinturé dans la surface de réparation par Ivan Kurkovic. Et l'arbitre ne siffle rien, ne siffle pas ce pénalty qui nous aurait permis de mener 2-1 à un quart d'heure de la fin. Et c'était l'époque où les Stéphanois, avec tout le respect que je leur dois, étaient quand même favorisés légèrement par l'arbitrage. Il ne faut pas dire ça par rapport aux arbitres qui sont indépendants et une partialité extrême, mais ce jour-là, quand même, l'arbitrage ne nous a pas aidés.
Puis il y a toujours le Nîmes Olympique autour de vous, même avec le maillot de l'AS Monaco. Vous êtes venu jouer au Stade Jean-Bouin en 71-72, l'équipe Landy Adams, Auger, Boissier, Kabyle, Audasso, Mézy, Pierre Calabre, Jacques Hivergne et puis Kader Firoud. Vous êtes venu jouer à Jean Bouin face à cette équipe. Vous étiez avec Monaco, à Jean Bouin.
Ces matchs-là me donnent encore plus de regrets de ne pas avoir signé à Nîmes Olympique, parce que c'est une équipe que j'admirais, pas seulement par le style et le talent des joueurs, mais également par la détermination injectée par Kader Firoud. Dans ce domaine-là, Nîmes n'a jamais été défaillant. Et c'est un exemple pour moi, puisque mon football, j'étais pas un aigle technique, mais il s'inspirait davantage de ce profil-là. Et j'ai regretté, bien sûr, d'autant plus que vous êtes gentil, mais vous me rappelez une défaite cuisante 5-0, je crois, alors que vous oubliez totalement, c'est là où vous voyez que vous êtes machiavélique, la victoire qu'on avait gagnée 3-1 ici à Jean Bouin. Mais enfin, je vous en veux pas.
Le stade Jean Bouin, c'était un temple du foot. C'était surtout un public très très proche de son équipe. C'était le petit couloir, le fameux couloir. Vous l'avez vécu tout ça avec le maillot de Monaco, Pierre, face au très grand Nîmes Olympique des années 70.
Que pourrais-je dire de plus sur Jean Bouin ? Tout a été dit, on pourra se répéter simplement. Par la vie même des joueurs nîmois, lorsqu'ils rentraient avec l'équipe adverse dans le petit couloir avant d'accéder au terrain, beaucoup me disaient on gagnait déjà 1-0. Parce que le regard de certains joueurs nîmois, intempestifs et virulents, mettaient les adversaires dans des périodes d'incertitude. C'est le moins qu'on puisse dire.
Après la carrière de joueur, on parle de l'UNF Vichy. C'était également l'apprentissage avec des succès en Coupe Gambardella, la Coupe Gambardella. Le Nîmes Olympique l'a gagné 4 fois, mais vous, avec l'INF Vichy, vous avez 2 victoires au compteur, Pierre. L'INF Vichy, le début de votre carrière d'entraîneur.
Ah oui, alors là, vous touchez un point sensible de ma personnalité. J'ai écouté Michel Hidalgo, que je connaissais à Monaco à ce moment-là, qui m'a conseillé, vu le profil que j'avais. Même étant joueur à Monaco, j'entraînais déjà. J'entraînais un petit club qui s'appelle l'US Capdai, avec des jeunes de 8 à 14 ans. J'avais déjà, entre guillemets, cette vocation, je me destinais à ça. Et Michel Hidalgo m'avait dit à ce moment-là, rentre à l'INF Vichy, il y a une place qui se libère, puisque Gérard Banide, un ami, collègue du ZES, quitte le club de l'INF pour venir justement à Monaco, il y a une place qui se libère. Et ça a été probablement le tournant de ma carrière, parce que j'ai appris là-bas, contrairement à ce qu'on peut penser en termes de formation, mais également en professionnalisme, en rigueur de professionnalisme, tout ce qui se fait de mieux. Et puis j'ai eu la chance de gagner 2 fois la Gambardella, c'était mes premiers trophées, et c'est ce qui a d'ailleurs déclenché l'intérêt du FC Sochaux, qui cherchait un entraîneur à ce moment-là. Mais je garde surtout de l'INF des relations très étroites manifestées par ces dernières 48 heures où il y avait le rassemblement des 50 ans de l'INF à Clairefontaine. J'ai pas pu aller, malheureusement, mais j'ai reçu une somme incroyable de témoignages d'affection qui m'ont amené la larme aux yeux.
Allez, des noms, Pierre. Vous les avez accompagnés, vous les avez formés, c'était leur premier pas dans le monde du football avant de devenir professionnel.
Oui, il y a une quinzaine de joueurs dans mes 2 promotions qui sont devenus des professionnels de haut niveau. Certains ne se rappelleront plus parce que c'est déjà 2 générations, mais il y en a un que tout le monde se souvient, c'est Pascal Olmeta, qui est mon fils par adoption. Casanova, gardien de but, De Plagne également, qui est passé par Montpellier, puis des garçons comme Dagneau, comme Vernet, qui ont fait une très belle carrière en Ligue 1. Dagneau en Ligue 1 avec Auxerre a joué 200 ou 300 matchs. Ce qui est attachant, c'est que ces garçons me témoignent encore par des messages récents toute leur affection, toute leur reconnaissance et tout leur remerciement. Je trouve que c'est ce qui reste le plus. En fait, c'est pas l'argent qu'on gagne, c'est pas la notoriété qu'on gagne, mais c'est les relations humaines qu'on crée avec des jeunes comme ça qui vous expriment leur reconnaissance.
Sochaux, c'est une 3e place au classement. Mosca, Sochaux, Pierre Mosca, Rennes, Mosca, Monaco, Sochaux, c'est une partie de votre histoire qui est importante.
Ah oui, très importante, parce que c'était la première fois qu'on faisait appel à moi dans un club de Ligue 1, et je suis arrivé dans une équipe qui s'était sauvée de justesse, qui a fait une belle carrière en Coupe d'Europe l'année précédente, mais les joueurs là, comme j'avais connu à Nîmes, d'ailleurs en Coupe de France quelques temps après, ils avaient choisi la Coupe d'Europe et ils avaient négligé le championnat, on s'est sauvé de justesse. Lorsque j'ai pris l'équipe, j'ai trouvé une équipe remobilisée, ça a été fait partie aussi de mon travail, et on a terminé 3e avec meilleure attaque du championnat avec les Imaco, Anziani, Stopira, Genghini, une très 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 belle équipe. Et un très bon souvenir, d'autant plus que Laurent Crossi, qui était un jeune qui débutait, il m'a piqué ma fille à ce moment-là.
C'est le livre du football que nous sommes en train d'ouvrir et de feuilleter les pages avec aujourd'hui dans la mi-temps de saga Croco, un Nîmois, Pierre Mosca. Vous succédez au grand Jean-Vincent à Rennes, Rennes à l'époque, en Division 2.
En Division 2, le président, M. Dimier, maintenant décédé, est venu me chercher. Ce qui m'a probablement aidé, c'est les performances de Sochaux, notamment la notion de meilleure attaque du championnat. Bon, j'ai accepté parce que mon cycle de 3 ans à Sochaux s'était bien passé et je voulais voir autre chose. Et la première année, là aussi, un peu de chance. Dès la première année, on est monté en première division, à l'issue de barrages incroyables.
Comment dirais-je ? L'aventure s'arrête l'année suivante, avec le Stade de Rennes.
Notre accession en première division a déclenché l'envie de certains pontes rennais, avec, je me rappelle, il y avait un directeur de clinique, un chef d'entreprise, qui ont pris un prétexte saugrenu pour expulser, pour virer mon président, qui m'adorait. Un président qui, entre parenthèses, il m'a offert la Coupe du Monde au Mexique. 3 semaines au Mexique. Et donc, ils ont pris le prétexte administratif pour virer ce président. Et moi, solidaire avec mon président, j'ai rompu le contrat qui me liait, où ils avaient pris, ces nouveaux dirigeants, l'initiative de faire venir Henri Guérin. Or, dans mon contrat, je devais être le seul responsable technique du club. Donc, j'ai gagné au prud'homme et j'ai quitté le club, mais en solidarité avec mon président.
Je suis obligé de parler à un moment de Montpellier, ici, au cœur de Nîmes. Je suis obligé de parler de votre expérience à Montpellier avec un président qui est venu vous chercher, Monsieur Nicolin, qui aurait peut-être dû s'arrêter 40 km avant d'arriver à Montpellier.
Le passage entre Rennes et Montpellier est tout à fait décrit puisque le président m'a offert cette Coupe du Monde au Mexique et dans l'avion qui nous avait au Mexique, sur qui je tombe, sur Louis Nicolin, qui me connaissait. Il était avec Bernard Gasset, le papa de Jean-Louis. Et là-bas, plutôt que de visiter toutes les pyramides aztèques ou tous les événements culturels, nous avons pris la solution, de louer une voiture. On est allé voir des matchs, on est arrivé de voir 3 matchs par jour. On a sympathisé et à la fin du séjour, il m'a dit « Pierrot, lorsque tu quittes Rennes, tu signes à Montpellier. » Le lendemain de mon annonce dans l'équipe, comme quoi je quittais le club de Rennes, Louis Nicolet m'appelle, il m'a dit « Je t'attends pour signer. » Je suis descendu à Montpellier et ça s'est conclu comme ça.
Quelle belle page, Montpellier. 3e du championnat. Encore un gardois qui accompagne Montpellier dans les hauteurs du classement et puis des joueurs également.
Moi, je voudrais rendre hommage à tous ces garçons qui nous ont amené la 3e place avec une charnière centrale exceptionnelle, Julio César Stojkovic, Roger Mia, Bernardet, Laurent Blanc, mais également des petits pitbulls, Nîmois comme Lucchesi, Biles également, Bernardet, donc Patrick Cubaine. Coloration nîmoise était à Montpellier. On avait fini 3e cette année-là. Valderrama est arrivé après. Mauvais choix du recruteur. Je ne veux pas en parler parce que loin de moi l'idée de parler mal de certains. Mais l'arrivée de Carlos Valderrama lui impliquait qu'il soit titulaire immédiatement alors qu'il n'avait pas fait ses preuves. Et moi, j'étais allergique et hermétique à ce genre de raisonnement. Donc il fallait qu'il démontre. Et au bout de 10 matchs, il est sorti de l'équipe. Et malgré les recommandations de M. Louis Nicolin qui me disait de le faire jouer, j'ai refusé, j'ai dit non, je ferai jouer l'équipe que je déciderai moi. Et il m'a dit, c'est comme ça, je te vire. Donc à la fin de la 2e année, j'ai quitté le club, il a honoré mon contrat, et pas de problème, mais il n'était pas question pour moi, ça a été un fait tout au long de ma carrière, de laisser l'initiative technique à quelqu'un qui connaissait moins que moi.
Il fallait que ça arrive un jour. Vous, le gardois qui croisait des Nîmois sur tous les terrains de D1, et le Nîmes Olympique. Quand est-ce que vous alliez ouvrir cette porte de votre histoire avec les crocodiles au Nîmes Olympique? C'est arrivé et ça a duré. Et vous m'avez dit tout à l'heure en off, c'est un souvenir formidable pour le coach que vous êtes, Pierre Mosca.
Ah oui, là aussi, la vie est faite d'aléas, de chances, d'opportunités. Et j'avais pris une semi-retraite à Luçon en Vendée au prétexte de rentrer dans une entreprise, une grosse entreprise qui est d'ailleurs très intéressante. Je faisais de l'import-export qui m'a conduit jusqu'en Chine, jusqu'à Hong Kong. Très intéressant. Mais j'ai reçu un coup de fil de Damien Allary qui était au conseil général du Gard. Il m'a dit, Pierrot, écoute, on vient de gagner les élections, Monsieur Clary est maire, on hérite d'un club à la dérive, il ne reste que 7 ou 8 joueurs, on a besoin de toi. Attention, on n'a pas d'argent, hein. Pas de problème, j'arrive. Donc
c'est récurrent, Pierre, au niveau olympique de ne pas avoir d'argent, que ce soit en 94 ou en 2023.
Je vous interdis de rappeler les mauvais souvenirs de Nîmes Olympique parce qu'on les vit actuellement en plus. Et donc je suis venu et ma mission principale, puisque Pierrot Barlaguet était entraîneur, c'était de lui donner une équipe. Alors j'ai recruté des Bochus, des Belbé, des Touron, des Pérez. On a bâti une équipe suffisamment belle pour qu'on aille en finale de la Coupe de France. Et l'année d'après, c'est moi qui ai pris l'entraînement et on est monté en deuxième division, qui était l'objectif.
Vous n'avez pas évincé Pierre Barlaguet ?
Pierrot Barlaguet atteignait les plus de 65 ans, date limite qui lui l'interdisait d'entraîner. Donc moi j'étais un peu plus jeune que lui, j'ai pu entraîner pendant quelques années et j'ai connu ce problème de 65 ans à Séar-l'Avignon.
La Coupe d'Europe à Nîmes, Pierre, on y revient, mais quelle épopée formidable après cette finale de 96. Il y a deux matchs aux Costières, deux matchs face à des Hongrois et des Suédois devant la France qui est scotchée devant la télé pour voir un club de national jouer en Coupe d'Europe des vainqueurs de Coupe. Et il y a une victoire, une première victoire à Nîmes, 3-1 face à ces Hongrois.
Oui, qui se pèse son VED, on allait un peu dans l'inconnu, on les avait observés, mais bon, de là en tirer des conclusions définitives, il y avait un pas que je ne voulais pas franchir, mais surtout, l'argument premier de notre équipe, c'était l'engagement à la Nîmoise. Là, cette équipe-là avait vraiment la mentalité nîmoise, et on les a fait exploser, puis on a gagné même là-bas, au match retour à Budapest, et le coach Pierre Mosca a fermé les yeux, a permis à ces jeunes d'aller festoyer pendant toute la nuit à Budapest, et j'ai retrouvé le lendemain à l'aéroport des fantômes de joueurs, les yeux dans le vide, qui avaient bien festoyé pour fêter cette victoire.
Pierre Mosca est avec nous dans la mi-temps de Saga Croco.
La mi-temps de Saga Croco, l'interview en podcast.
Après les victoires, la qualification face aux Hongrois en 16e de finale de cette Coupe des Coupes, est-ce que vous avez le temps de savourer ces bons moments et qui sont gravés dans l'histoire du Nîmes Olympique ?
Oui, j'ai cette particularité de profiter au maximum pendant un délai très court des joies d'une victoire, surtout aussi probante que celle-là. Mais 24 heures ou plus 48 heures après, je passais tout de suite au prochain objectif, c'est-à-dire je commençais à préparer le match du dimanche, le match du samedi soir. Bien sûr, j'emmagasinais ce plaisir-là, quitte à le ressortir plus tard, mais surtout, je ne voulais pas que dans le groupe s'installe un petit confort qui est souvent nuisible à la performance.
Et puis, il y avait également des déceptions à gérer. La déception, c'est l'élimination face aux Suédois. Et vous rebondissez, bien sûr, avec cette jeune équipe qui était encore plus jeune que la précédente, puisque vous accédez à la Ligue 2 à la fin de la saison.
Voilà, et je manquerais à tous mes devoirs si je soulevait pas une anecdote qui, en fin de compte, c'est pas révélé une anecdote, mais quelque chose de primordial dans la saison, c'est que j'avais choisi en novembre de postuler un tour de Coupe de France à Outre-mer. Et on est tombé contre une équipe de Nouvelle-Calédonie. Ça impliquait qu'il fallait partir au moins une semaine. On est parti, oui, 7 jours juste, avec un groupe qui multipliait les incertitudes. Parce qu'après la Coupe d'Europe, il y avait quand même une déception. Il fallait assumer un championnat très difficile où Istres se baladait avec 8 ou 10 points d'avance. Et il n'y en avait qu'un qui montait à ce moment-là. Et mon choix s'est révélé très judicieux puisque en Nouvelle-Calédonie, mes joueurs ont vécu une semaine ensemble, se sont solidarisés au maximum. Constituer un groupe qui s'est avéré indestructible dès qu'on est revenu en janvier. Et c'est la raison essentielle de notre remontée au classement. Il y avait les 8 points de retard sur Istres, on a fini avec 4 ou 5 points d'avance et on a eu le droit de jouer le titre champion contre Wasque Hall. Je me rappelle toujours tous mes joueurs qui sont rentrés au Costières avec 15 000 spectateurs avec les cheveux peints en rouge. C'était une anecdote incroyable et un souvenir inoubliable.
C'est une obsession pour un coach, la gagne, accéder à l'échelon supérieur. C'est ancré dans votre génétique comme une obsession.
Ah oui, ça, vous savez, les exemples sont nombreux qui démontrent qu'un entraîneur qui ne gagne pas, il ne dure pas. Bon, moi j'ai le petit avantage de présenter un CV qui assure plus de 12 ans en première division, plus de 550 matchs sur un banc de touche professionnel. Ça veut dire qu'on peut se tromper une fois sur Mosca, deux fois, allez, peut-être, je vous l'autorise, mais pas trois. Les jeunes présidents qui m'ont fait confiance n'ont pas eu, je pense, à le regretter, puisque j'ai toujours répondu aux attentes et j'ai atteint les objectifs qui m'étaient fixés.
Entraîneur dans les années 80-90, coach dans les années 2010-2020, à vous de choisir le terme, c'est un sacrifice total pour son métier, pour sa passion. Pierre Mosca et la famille au milieu de tout ça?
Ah non, moi, la famille était prioritaire. C'est bien sûr un investissement total, un don de soi total par rapport à son métier, mais comme le font des entrepreneurs, des ingénieurs ou des employés de bureau. Si vous n'aimez pas votre métier, il faut changer. Mais la priorité a toujours été accordée à ma famille. J'ai d'ailleurs refusé, je peux vous le révéler maintenant, il y a 12 ou 15 ans, une grosse proposition aux Émirats Arabes Unis, mais ça a impliqué que je quitte mes enfants, mes petits-enfants et mon épouse ici. Et j'ai pas voulu, je serais moins riche, mais je serais plus heureux.
Vous êtes à Nîmes. Nous sommes en 2023, pratiquement à la fin de cette année. Vous faites partie de l'histoire de ce club. Je suis un très très vieux supporter de ce club et nous sommes en train de le voir mourir. Est-ce qu'il peut y avoir un petit peu d'espoir encore aujourd'hui ?
Oui, alors je ne vais pas revenir sur tous les événements qui se sont passés ces dernières années, avec notamment un personnage qui cristallise l'attention de tous, c'est-à-dire le président Rani Assaf. Mais oui, Nîmes va s'en sortir, parce qu'ils sont toujours sortis et l'histoire se répète toujours.
Il faut absolument que ce club soit cédé à quelqu'un d'autre.
Que Rani Assaf accepte l'idée d'avoir perdu la partie, ça va être difficile chez lui, avec son égoïsme exacerbé. Mais s'il trouve un repreneur, le repreneur ne va pas récupérer Nîmes pour rester en national. Alors je ne comprends rien au football. Il va falloir accompagner cette reprise par une ambition légitime, une ambition mesurée, proportion nîmoise, mais qui prévoit probablement l'accession en Ligue 2 d'ici 2 ou 3 ans, et pourquoi pas en première division plus tard. Mais ça, il y a beaucoup d'incertitudes. La solution actuellement, c'est de céder ce club à des personnes ambitieuses, raisonnées, qui sachent s'entourer de gens compétents, ce que le président actuel n'a jamais pu faire.
Le mot de la fin pour Pierre Mosca, on vient de passer comme ça un peu plus de 20 minutes. Dans notre brasserie préférée au cœur de Nîmes, cette ville que nous aimons et que nous adorons. En plus, Pierre Mosca très à l'aise au micro, Canal 30 pour Saga Croco. Pierre, vous avez certainement quelque chose à nous dire en conclusion.
Mais j'ai une règle de conduite que mon papa, très sévère, m'a toujours éduqué dans ce sens. Il me disait toujours, immigrés que nous étions, attention de ne pas manquer de respect à la France, c'est elle qui nous a donné à manger. Et j'ai toujours eu cette connotation un peu cocardière dans l'esprit. Et si je devais formuler une appréciation qui corresponde à mon parcours, c'est la suivante. L'estime vaut mieux que la célébrité et la considération vaut mieux que la renommée.
Merci Pierre Mosca. Et puis, je suis très heureux de vous avoir eu un matin dans Nîmes au micro de Saga Croco. Juste un dernier mot à nous dire.
Oui, mais je cède le micro volontiers à René Girard. C'est un garçon que j'aime beaucoup, qui lui aussi a apporté beaucoup de choses et dont le tempérament correspond un peu au mien.
Ça sera donc notre prochain invité dans la mi-temps de Saga Croco.
La mi-temps de Saga Croco, en podcast sur toutes vos plateformes.